Vous écoutez
RMC.
RMC.
Oui, il n'y a pas de tension, hein. Tranquille. Elle me regarde. Question suivante.
Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
Il n'y a pas de... T'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça ne veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after en direct jusqu'à minuit, 7 jours sur 7 en podcast. Walid Acherchour est là, salut Walid.
Salut Thibaut, salut Flo, salut à tous.
Et Florent Gautreau nous rejoint, salut Flo.
Salut les gars, salut à tous.
Nous sommes le 14 août, au cœur de l'été. Et déjà un trophée pour le Real Madrid. Nous sommes le 14 août. Et Kylian Mbappé a fait ses premiers pas, a marqué son premier but et remporté un premier titre européen avec le Real Madrid. Victoire 2-0 ce soir en Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. On débrief cette rencontre dans un instant avec vous au 32-16. Yoann Crochet, Fred Hermel vont nous rejoindre également. Le match de Kylian Mbappé, on vous attend nombreux au 32-16. Dans deux jours, au cœur de cet été, c'est la Ligue 1 qui reprend ses droits avec la première journée des infos. Marseille à vous donner ce soir. Déjà 9 arrivés, on en attend encore du côté de l'OM. Êtes-vous emballé par le mercato marseillais? Je vous attends au 32-16, mais marseillais, on écoutera Eli Wahi qui a dit ses premiers mots d'Olympien aujourd'hui en conférence de presse. On fera d'ailleurs un gros point mercato, encore pas mal de choses à vous annoncer ce soir en fin d'émission dans le meilleur de l'actu du jour. Et puis à deux jours de la Ligue 1, on parlera également à nouveau droit télé de DAZN, quelques annonces encore et une interview du PDG de DAZN ce soir qui parle notamment du prix d'abonnement. Je vous dirai les meilleures phrases tout à l'heure. On vous attend au 32-16 sur tous ces sujets, bien évidemment. On est toujours en direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux, très nombreux. Très nombreux en vacances peut-être ce soir à vous connecter en direct. Je vois vos messages. Soir de Coupe d'Europe, pas de libre antenne, mais ça reviendra en septembre. Les libres antennes. Merci en tout cas d'être là. C'est parti pour les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel, c'est le plus important.
Et oui, au cœur de ce mois d'août, les 3 points après la victoire du Real face à l'Atalanta. Flo.
Bah oui, je vais commencer par Mbappé parce qu'on avait les yeux rivés sur lui et je dirais que son but va être important parce que son match n'était pas très bon, donc il va être important pour lui. J'ai senti presque un peu timoré Mbappé et puis dans un rôle, on va y revenir, mais à mon avis très intéressant quand même, puisque ça fait quand même beaucoup d'entraîneurs qui commencent à le mettre en numéro 9. Il va avoir aussi beaucoup d'efforts à faire, il l'a vu, il a commencé à les faire. Donc moi j'ai pas trouvé que c'était un très grand match de Mbappé. Mais que ce but va être capital pour lui, pour la confiance, et j'ai trouvé que les attitudes des autres joueurs étaient importantes. Le deuxième point, c'est Vini. Je pense que là, on a un joueur qui est là justement, quand Mbappé voit Vinicius Junior, et il faudra qu'on en parle dans plein de registres, et d'autres registres que ceux qu'il avait avant, déjà. Beaucoup plus dans le cœur du jeu, dans les passes D, dans l'aspect décisif sur chaque action. C'est un joueur exceptionnel, et je pense que pour Mbappé aussi, ça doit lui montrer tous les efforts qu'il doit faire. Puis troisième point, petite déception côté Atalanta. Alors, je les ai trouvés bons défensivement, je vais dire, mais pas très bons offensivement. J'étais un peu déçu à ce niveau-là. En revanche, j'ai trouvé que même si le Real a poussé, ils ont été quand même assez costauds dans la première période. J'ai trouvé qu'ils défendaient bien. Beaucoup de rigueur, beaucoup de bonne organisation. Un peu déçu sur l'aspect offensif de l'Atalanta.
Où allez tes 3 points?
Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Flo, donc je vais me faire mon premier point. C'est sur Bellingham. Il n'en a pas parlé, que moi j'ai trouvé fantastique sur la deuxième mi-temps, à l'origine des plus grosses situations, un peu plus bas comme j'aime au poste de numéro 8, alors qu'il revient très tardivement de l'Euro, très prématurément après sa finale d'Euro. Le deuxième point, c'est Courtois et Militao qui sont des recrues pour moi pour le Real Madrid. On parle beaucoup de Kylian Mbappé, mais Courtois qui a fait un très gros match, et surtout Militao qui a très très bien bloqué Lookman pendant toute la rencontre. Et le troisième point, c'est ce Real Madrid avec Kylian Mbappé, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, avec encore des imperfections, on en parlera tout à l'heure, mais qui montre que quand ils accélèrent, ça va être quand même très très dur pour les autres équipes cette année de les concurrencer.
32-16, vous venez réagir, il est quasiment 23h, on est en direct sur RMC. Commençons par lui, évidemment, ce 14 août, c'était l'événement, c'est le transfert de l'été, transfert de l'année. Kylian Mbappé, son premier match, il était titulaire, 82 minutes ce soir face à l'Atalanta et un premier but. Analysons en fait, au-delà du but, mais la performance numéro 9, il a joué, tu le disais Flo, mais on n'a pas vu un Mbappé quand même, et c'est normal. On aurait été, enfin moi j'aurais été étonné du contraire de voir un Mbappé flamboyant ce soir après une semaine d'entraînement, alors qu'on l'a vu en difficulté ces derniers mois. Voilà, on voit un Mbappé qui avait envie, mais qui est encore les lacunes qu'on lui a vues ces dernières semaines.
C'est ce qu'a dit Flo, plein de bonne volonté. Il a essayé de bouger sur le front de l'attaque. Il a essayé de combiner en première mi-temps. Après, dans la réalisation, c'est vrai que par rapport à ce qu'on attend de Kylian Mbappé en termes de standing technique, je l'ai trouvé parfois peu inspiré. Et par rapport à d'autres joueurs sur le match, je l'ai senti un peu en dessous. Mais il met ce premier but qui restera dans son histoire du Real Madrid pour un premier trophée avec ce nouveau maillot blanc. Il fait quand même 80 minutes avant de sortir. Voilà, je vais pas être hyper exigeant envers Kylian Mbappé ce soir. On va retenir le positif. Mais c'est vrai que si on doit analyser son match, moi dans le ranking des joueurs, il y en a quand même 3-4 devant minimum ce soir. Mais
c'est intéressant.
C'est pas grave, comme tu l'as dit. Il y a des circonstances, c'est son premier match. Il a un rôle de numéro 9. De toute façon, le rôle de numéro 9, on en parlera après. Mais il va falloir s'y accommoder parce que vu ce que fait Vinicius déjà, sur son côté gauche.
Ce qui aurait été grave, justement, c'est ça, c'est de le voir faire un match fantastique ce soir alors qu'on l'a vu à l'Euro.
Il n'y a pas de surprise. Il est dans la lignée. Son match était dans la lignée de ce qu'il a fait à la fin de saison avec l'équipe de France, c'est-à-dire un match assez poussif, assez moyen. Il est dans la lignée aussi parfois de cette difficulté qu'il a à s'accommoder de ce poste de 9, notamment dans son jeu dos au but, puisque là on va rentrer sur cette position. Il va être, c'est exactement ce que Luis Enrique lui a voulu lui faire faire. En fait, Luis Enrique, il travaille aussi pour les joueurs. Il lui a dit, mais mon pote, tu vas pas pouvoir jouer tout le temps où tu veux, en haut à gauche. Tu vas devoir jouer partout, et donc y compris neuf. Mais par contre, si tu joues neuf, faut faire différemment. Et là, il a quand même des problèmes de positionnement. Il a des problèmes dans le jeu de haut but. Mbappé, il est toujours sur ses appels pour avoir le ballon, mais pas pour des appels pour les autres. C'est ça aussi. Donc ça, moi, je pense que...
Ce qu'on avait expliqué au...
Ouais, avant, sauf que... On peut espérer, quand tu le vois, y compris défensivement, se mettre au marquage sur un corner défensif, des choses qu'on voyait rarement, tu peux espérer, non pas espérer, tu peux même être certain que Ancelotti, d'une part, et tout simplement le système de jeu du Real, l'obligera, quand il voit ce que les autres font, à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. C'est-à-dire, en gros, à reprendre une part de sa progression qu'il avait laissée un petit peu en stand-by pendant un an et demi, deux ans. Donc, moi, ce que j'ai vu là, t'as raison Thibaut, c'est dans la lignée ce qu'on avait vu, et j'allais te dire avant qu'il marque, très moyen. En revanche, j'ai vu aussi timoré, comme il a voulu faire parfois, montrer que, tu sais, là, il est sur un dribble sur le côté, il se fait prendre le ballon très facilement sur un truc assez simple. Il n'était pas dedans. Le but, là, pour ça, peut l'aider psychologiquement à rentrer dans
Et puis, il y a le langage corporel aussi, c'est que, on l'avait dit pendant le live, il y a une situation où Vinicius doit lui donner, il lui donne pas, ni dans un premier temps, ni dans un deuxième temps. Il fait un espèce de pouce, il lui envoie un pouce en disant c'est pas grave, Vini. Tu sens que, voilà, c'est pas son équipe, c'est l'équipe de Vinicius actuellement, celle aussi de Bellingham, et il va faire un peu le tour, ça c'est différent de ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain notamment, et peut-être qu'il va s'y accommoder un peu plus rapidement.
La leçon du match, je trouve, et de ce qu'on a vu globalement de ce Real, et qui pour lui va être hyper importante et peut-être très positive, c'est que ces joueurs-là sont collectifs. C'est-à-dire que tous autant qu'ils sont là, toutes les stars autour de lui, et lui va les voir, Vini sur le but. Il peut frapper.
Il lui donne.
Il le cherche. Ensuite, Bellingham le cherche à nouveau. Il n'y a pas d'histoire de Neymar veut pas lui passer le ballon. Il n'y a pas ça.
C'est positif.
Au Real, mais dans tous les sens. Ça veut dire que Mbappé, dans la même situation, à l'inverse, il ne faudra pas qu'il prenne la frappe à chaque fois quand Vini est mieux placé. Donc, si ça se passe comme ça, ça a l'air d'être le cas. C'est-à-dire, vraiment, on a vu quand ils sont venus le féliciter, ils sont allés le chercher sur les passes.
Sur la célébration même, tout le monde était content qu'il
marque. Franchement, c'est plutôt top.
Oui, bien sûr.
Mais en tout cas, cet effort collectif, là, le côté à la Benzema, on va dire. Je frappe quand je dois frapper, mais je passe quand je dois passer. Bon, c'est pas forcément une qualité d'Mbappé à la base. Il va devoir l'acquérir, c'est sûr.
Première réaction ce soir de Mbappé au micro de Canal. Je cite, commencer par un titre, déjà juste jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi, c'est incroyable. On est au Real, il faut gagner des titres, être décisif tout de suite, ça marque, même s'il y a toujours des choses à améliorer, j'en suis conscient. Il nous a donné beaucoup de liberté, il parle d'Ancelotti, être connecté avec l'équipe, avoir beaucoup de mouvements pour que l'adversaire ne puisse pas lire la façon dont on joue et surtout prendre du plaisir. Justement, dans l'expression collective, dans ce Real Madrid avec Kylian Mbappé, on le disait pendant le live avec Walid, avec Kevin, on a l'impression que là c'était nouvelle saison FIFA, on a recruté toutes les stars et on les a mis, on sait que c'est trop, mais on les a mises.
On a pas recruté d'ailleurs beaucoup, hein, c'est ça qui est marrant.
Oui, on a recruté la star, en tout
mais
cas.
Mais c'est ça qui est dingue aussi, c'est qu'il y a une grosse stabilité quand même.
Et est-ce que cette équipe, c'est viable, ce Real? Donc je rappelle, là, 4-2-3-1, avec les 4 devant, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Mbappé en 9, derrière Bellingham, entouré de Tchouaméni et Valverde. Vous pensez que ça, sur le long terme, sur des grands matchs, c'est viable?
On a vu pendant toute la rencontre, on va dire sur la première heure de jeu, que c'était en rodage. On a vu Carlo Ancelotti appeler Rodrigo, appeler Vinicius notamment pour essayer de synchroniser les déplacements parce que ça a énormément dézoné. Mbappé a joué côté gauche à un moment donné, Rodrigo a aussi dézoné, Vinicius la même chose, Bellingham on l'a retrouvé dans un rôle un peu plus bas face au jeu, 8-10 plutôt que 19 comme ça a été le cas l'année dernière puisqu'il n'y avait pas de numéro, il n'y avait pas de numéro 9. On a abandonné ce 4-4 de losange avec deux véritables ailiers, avec Vinicius et avec Rodrigo. On en reparlera aussi au milieu de terrain avec Tchouaméni, est-ce que j'aurais quand même quelque chose à dire là-dessus. On sent qu'on a encore un Real, et c'est plutôt logique, avec des joueurs qui étaient internationaux, qui ont joué soit la Copa América, soit l'Euro, donc qui viennent d'arriver de manière très tardive. C'est logique. Maintenant, quand tu vois comment ils ont accéléré en début de deuxième mi-temps, dès qu'il y a eu la grosse occasion avec Courtois qui fait l'arrêt sur Pazalic, là ils ont accéléré et on a vu qu'il y avait une force individuelle qui permettait peut-être de masquer des problèmes collectifs et ça permet au Real de gagner un titre ce soir, après à voir sur la durée.
Et quel plaisir en ce 14 août, en ce milieu d'été, de passer un petit bout de notre soirée avec deux de nos drôles de dames. On retrouve Johan Crochet qui est avec nous tout à l'heure. Salut Johan.
Salut Thibaut, salut Walid, salut Florent, bonsoir à toutes et à tous. Salut.
Et Fred Hermel qui remporte un titre de plus. Salut Fredo.
Ça fait beaucoup, hein. Ça m'a rogné pour moi, vous savez. Hola chicos. Bon, ça démarre bien, non?
Bah oui, ça démarre pas mal.
Je vous ai écouté sur. Pour moi, le plus gros enseignement de ce soir, c'est pas la victoire du Real qu'on attendait, c'est même pas le but de Mbappé parce que c'était écrit. Pour moi, c'est l'attitude des autres joueurs avec Mbappé, vous l'avez souligné, et l'attitude de Mbappé avec les autres, avec Bellingham, avec Rodrigo, avec Vinicius. Parce que moi, j'ai connu le vestiaire des Galactiques. Et moi, je me souviens des joueurs qui ne passaient pas le ballon à Zidane. Vous savez, ça a été compliqué parfois, ce club, pour des joueurs quand ils arrivaient. Je me souviens de...
Les premiers mois de Zidane, c'est ça? Quand il est arrivé?
Mais ouais. Et Anelka.
Ouais.
Et Anelka, ce qu'a souffert Anelka quand il est arrivé dans ce vestiaire. Vous savez, c'est... Ça n'a pas toujours été évident pour un joueur d'arriver avec en étant un transfert important au niveau médiatique ou financier. Il y en a plusieurs qui ont beaucoup beaucoup souffert. Même Zizou a mis 6 mois avant de s'intégrer dans le vestiaire. Il y a un joueur comme Figo par exemple qui est devenu un ami de Zidane après. Hein. Mais au début, il lui passait pas le ballon quand même. Hein. Donc, il s'est passé des choses, beaucoup de choses dans ce club.
Et là, ce soir, t'as la confirmation de ce que tu pressentais, de ce que tu nous disais avant le match, ce qui te remontait du vestiaire, c'est que ça se passe super bien.
Ben, ça se passe bien parce que déjà, il y avait déjà eu beaucoup de contacts entre certains joueurs, dont Vinicius, avec Mbappé. Et surtout, il y a une super ambiance dans ce vestiaire. C'est un vestiaire qui vit bien. Et je l'évoquais cet après-midi à l'antenne. C'est un vestiaire qui a été bâti par un certain Sergio Ramos, qui tenait son vestiaire. Et quand il y a des mecs qui l'a ramené un petit peu, il est pris dans un coin, il est calmé. Et c'est l'héritage de Ramos, et ça a été repris derrière par Kroos, par exemple. Il n'y a plus Kroos, mais il y a toujours Carvajal, il y a Modric, il y a Courtois. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui tiennent ce vestiaire, puis il y a des mecs bien, qui s'entendent bien. Et surtout, il y a eu l'intégration fabuleuse de Bellingham l'an dernier, qui a été un modèle à suivre par Mbappé. Et comme Mbappé est un garçon intelligent, un garçon qui a réalisé son rêve et qui en plus parle très bien l'espagnol, donc c'est assez facile pour lui d'entrer dans ce club. Et en fait, à l'entraînement, moi, ce qui me remonte, c'est que l'attitude il n'est pas arrivé comme je suis la star, quoi. Non, non, il est arrivé, je suis un mec qui réalise son rêve et qui est uno más, comme on dit en espagnol, un parmi tant d'autres, et qui doit démontrer qu'il peut être l'une des stars de cette équipe. Parce que pour l'instant, c'est pas lui la star. Hein.
Pour illustrer ce que tu dis, on a en direct la remise du trophée, une sorte de photo autour de la coupe. Voilà, c'est Modric derrière la coupe, il est entouré de Vinicius, de Carvajal de côté. Mbappé est pas trop loin de la coupe, mais il est un peu sur le côté.
Il l'avait très rapidement à Hendrick.
Ouais, et l'illustration de la fête pour Mbappé par rapport à ce qu'il a pu vivre avant, comme tu disais, Fredo, et par rapport au jeu et par rapport à tout, et même pour lui, je pense que d'ailleurs ça va le soulager peut-être aussi. C'est un parmi d'autres stars.
Mais oui,
c'est-à-dire que tu partages un peu aussi la pression. Là, lui, il l'avait parce que t'es nouveau. Évidemment que si tu rates trop de trucs, tout de suite on va en parler. Donc je pense qu'il avait cette pression-là qui s'est ressentie. Il a de toute façon des efforts à faire. Sur le plan physique, sur le plan technique, collectif, ouais, et sur ce plan.
Ouais, même si physiquement, je vous écoutais, physiquement, il y a eu quand même 2-3 accélérations. Ça faisait un moment qu'on ne les a pas vues chez lui.
Ouais, mais après, il faudra qu'on voit sur la longueur. Parce que,
je suis d'accord, mais après une semaine d'entraînement.
Après, sur les stars, il y en avait au PSG. Hein.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au PSG, à force d'avoir voulu prendre politiquement même le pouvoir et de se dire je veux ci, je veux ça, je veux que ça se passe comme ci, comme ça, t'avais l'impression que
au début, ça
je défends pas.
Au début, c'est vrai que pour moi, la gomme, elle est propre dans la trousse, l'agenda.
Ouais, mais c'est pas pareil.
Tout se passe bien.
Je pense quand même que Mbappé, et c'est tout le problème du PSG et de ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où on lui a donné autant de pouvoir, bon, il l'a pris. On peut le critiquer, mais c'est plutôt le PSG qui est critiquable. Lui a pris ce qu'on lui a donné. Alors que là, il va jamais prendre le pouvoir. Il va prendre sa part du pouvoir. Il va peut-être gagner de l'influence dans le vestiaire. Mbappé, effectivement, sur le temps, il a tendance des fois à vouloir tout régenter. On va voir si ça se passe comme ça. Mais pour l'instant, il sait que ça peut pas se passer comme ça. Et moi, surtout, je parle même pas de l'équilibre du vestiaire. Si en plus Fred dit que ça se passe bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Je parle vraiment de l'équipe sur le terrain. De voir que les autres font ce qu'ils font en défensivement et en termes, je te dis, de collectif, il sera obligé de passer par là. Il sera obligé.
Mais parce que sinon, ça va se voir. Au début, s'il ne défend pas, ça va se voir. S'il ne défend pas, si on voit qu'il râle, par exemple. Moi, je me souviens, par exemple, de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, parce qu'on est obligé de comparer, en fait. Je parlais de l'arrivée de d'Anelka, l'arrivée de Zizou, l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pendant un an, la première saison, c'est compliqué. Avec les autres, c'est compliqué avec le public, parce que on connaît. Quand quelqu'un lui passait pas le ballon, bah, il faisait des petits gestes, etc. Il se faisait siffler par le public du Bernabéu parce qu'il avait ce genre d'attitude un peu perso. Mmh. Donc, c'est...
Après, il est arrivé dans des conditions...
Le cadre...
Ronaldo est arrivé dans des conditions différentes. Il venait de gagner la Ligue des Champions. Enfin, il avait le Real enchaîné les huitièmes de finale. Là, il arrive dans un vestiaire qui a tout gagné. Il est obligé de se mettre au diapason Mbappé.
Oui, mais Cristiano Ronaldo, finalement, il s'est mis au diapason. Hein. Il a arrêté ses petits gestes. Au bout de quelques mois, il a dû arrêter ses petits gestes.
Dans un instant, Abou au 32-16, mais juste avant, écoutons Kylian Mbappé. Je vous parlais d'une première réaction, c'était il y a quelques minutes, au micro de Canal.
Je l'ai imaginé de bien des façons, mais bien sûr, commencer par un titre. Déjà, juste jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi. C'est incroyable, l'atmosphère était magique. Après, bien sûr, un titre, parce que qui dit Real Madrid dit titre, il faut gagner ici. Donc, premier match, gagner un titre, c'est très important. Et bien sûr, le but, pour un joueur comme moi, être décisif tout de suite, ça marque. Et donc, je suis très content, même s'il y a toujours des choses à améliorer, et j'en suis conscient.
Ouais, il le dit quand même mieux que moi. Abou est avec nous au 32-16. Salut Abou, bienvenue sur RMC.
Salut les gars, comment vous allez?
Pleine forme, et toi Abou?
Très bien, bah, nickel. Supporter du PSG, je précise, pas du Real Madrid.
D'accord.
Mais pas rageux.
Ok.
Très content. Non, mais moi ce que je veux dire d'abord, c'est que...
En fait,
je vais peut-être commencer.
Ouais, vas-y.
Non, mais je vais commencer par détourner en fait l'expression, je crois, d'un joueur allemand dans les années 80. Bon, en fait, le football aujourd'hui, c'est un sport qui joue à 11, et à la fin... C'est une équipe espagnole qui gagne, quoi. En fait,
c'était la Lineker.
Bref, c'est les meilleurs un peu partout. Ils gagnent en club, ils gagnent en sélection. Ça joue bien. Enfin, voilà, quoi. Viva España. Donc, faut quand même leur rendre ce petit hommage parce que c'est un football qui performe bien, qui travaille bien depuis plusieurs années. Et puis, ça paye, quoi. Ça paye.
Enfin, malgré après, il n'y a pas beaucoup d'Espagnols dans l'équipe ce soir, quand même, dans la durée.
Il y a beaucoup d'échecs aussi, là, dans les sélections. Juste un petit point sur ce que tu viens de dire. Le Real a l'avantage, dans ce foot dingue où ça recrute à tout va, d'avoir une équipe ultra stable, hein, aussi. C'est-à-dire que quand on dit à juste titre Courtois
10 sur 11 ce soir.
À 10 sur 11 ce soir avec Mbappé, c'est quand même pas pareil de travailler en plus avec des joueurs de ce niveau-là et de cette qualité-là et de récupérer ton gardien. Bon, tu l'avais déjà récupéré en finale, mais bref, c'est important de noter aussi, et c'est peut-être c'est presque un pied de nez à tout ce qui se passe dans le foot business actuel, que ce Real-là, il a recruté un joueur, quoi, en fait. Enfin, ce soir, au coup d'envoi, en tout cas.
Pour aller dans ce sens, en fait, c'est une équipe, si tu regardes depuis le départ de Cristiano Ronaldo, et tu pouvais te dire, en fait, Cristiano, t'es la superstar, il avait recruté en 2009, il y a quand même eu un gros cycle, une dizaine d'années, en gros, avec Cristiano numéro 1 et puis les autres, même s'il n'y a pas eu que des réussites, bah, en fait, tu te dis, je trouve que c'est une équipe qui a super bien géré, en fait, cet après-là. Ils ont gardé une équipe stable, ils ont donné la place aux jeunes, en maintenant les anciens, et en fait, ça continue de gagner. Et moi, franchement, je ne pensais pas du tout qu'ils allaient prendre toutes les Ligues des Champions qu'ils ont prises.
Après, faudra voir aussi, là, on parle de ce soir du premier match de la saison, la Super Coupe d'Europe. Voilà, tirons pas de conclusion non plus. On est en train de dire comme s'ils avaient déjà tout gagné cette saison. Mais effectivement, ça part très bien.
C'est un cycle. En fait, c'est qu'on sort des JO. Bon, on a vu la finale des JO, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné l'Euro. Il faut quand même dire que, en gros, le printemps été, c'est quand même un printemps été espagnol.
Oui, alors après, il faut séparer les équipes espagnoles des clubs. Voilà. Moi, je suis désolé de rafraîchir tout le monde, mais voilà. La Liga, pour la première fois la saison dernière, est sortie du top 4 du classement UEFA. Voilà, donc le Real, en remportant, a caché aussi les déconvenues énormes des clubs espagnols ces derniers temps en Coupes européennes. Donc attention, puis ce soir il n'y a qu'un Espagnol au Real, hein. Il n'y a que Carvajal, hein, dans le 11 titulaire. Hein. Donc attention, ça aussi, je veux dire, je ne vais pas rabaisser le foot espagnol parce que là, mais moi j'ai été un peu énervé en fait de tout ce qui a été dit après la victoire au JO, etc. Mais parce que comme si que le foot espagnol était que la Liga était la plus forte. Non, la Liga n'est plus le meilleur championnat du monde. Je pense qu'il faut séparer les choses.
Ouais, bon, la part des choses a été faite, non, quand même, je pense.
Mais je pense qu'on a un peu mélangé beaucoup de choses. Moi, j'attends beaucoup de cette Liga parce que bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais je trouve que l'Atlético fait un très bon recrutement.
C'était quand même mieux l'année dernière, Barça, en fait. Par rapport à la saison d'avant,
c'était un peu mieux. Pourquoi? Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu Gérone qui a été un souffle d'air frais qui a fait du bien à tout le monde. Mais le Barça n'a pas été au niveau, l'Atlético n'a pas été au niveau, Valence n'a pas été au niveau, Séville n'a pas été au niveau. Donc voilà, la Real Sociedad, sur laquelle on comptait beaucoup, n'a pas été très bonne finalement en Europe. Mais bon, c'est voilà. Moi, ce que je trouve, pour rebondir sur ce que disait Abou, il y a une politique du Real Madrid qui a évolué, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de Vinicius, comme Endrick qui va bientôt jouer parce qu'il est officiellement joueur du Real aujourd'hui, comme Rodrigo, ce sont des paris sur des jeunes Brésiliens qui ont été faits par le Real, par Juni Calafat, le recruteur en chef de cette équipe, et ça fonctionne. Donc c'était aussi une manière de vouloir concurrencer l'abondance d'argent de la Première Ligue en ne payant pas 100 millions tous les ans pour un Galactique, mais en essayant d'aller chercher des joueurs ailleurs avant.
Thibaut, on a eu un échantillon très intéressant du Real Madrid. On va continuer de l'évoquer. Bravo au Real. On n'est pas surpris que le Real Madrid batte une équipe de l'Atalanta qui est décimée, qui n'a pas Scamacca, Coupe Miners. Voilà.
Qui a baissé physiquement en deuxième période aussi. Hein, c'est là où c'est ça.
Le Real Madrid, avec l'effectif qu'ils ont, ils avaient quand même sur le banc Brahim Diaz, Guler et Modric. Je les attends. On va les attendre un peu plus loin dans la saison. Donc c'est un bel échantillon. Mais on va pas non plus dire que le Real Madrid va tout gagner cette saison. On va en attendre un peu plus. Mais
exactement. Voilà. Alors, on va continuer dans un instant. Je remercie Abou d'avoir été là au 32-16. À bientôt, Abou sur RMC. À analyser cette victoire. On parlera justement un peu plus des autres joueurs. Vinicius, Bellingham, qui vous a plu ce soir, toujours avec Fred Hermel. Et puis l'Atalanta, justement. Cette Atalanta qui a posé quand même, Johan Crochet, là, bien des problèmes au Real en première période. Notamment ce Lookman qui nous plaît de plus en plus. C'est l'After avec Kevin Diaz, avec Flo Gautreau, avec Walid Acharchour. On est le 14 août. On revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h19. Nous sommes le 14 août. Quel plaisir d'être avec vous en direct jusqu'à minuit. Flo Gautreau, Walid Achar, toujours direct à la radio sur RMC, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous pouvez venir nous voir et commenter. Vous êtes très nombreux ce soir. Merci d'être là. Peut-être des vacanciers qui cliquent en cette fin de soirée. Johan Crochet est là. On va parler de l'Atalanta qui a fait une belle première période, qui s'est un peu écroulée en deuxième. Dans un instant, Fred Hermel toujours là également. Et il y a Moustapha qui nous appelle au 32-16, supporter du Real. Salut Moustapha.
Bonsoir à tous.
Moustapha, toi, j'en parlais tout à l'heure, cette compo un peu all-star, là, un peu cheatée, t'y crois pas forcément sur le long terme ?
Non, je pense que là, t'as été fait pour pas frustrer Rodrigo. Moi, je pense qu'à terme, Rodrigo, ouais, il va bouger. Enfin, c'était, voilà, comme il a dit Walid, l'Atalanta était quand même assez décimée. Là, je pense qu'Ancelotti, il a voulu faire passer aussi un petit message à Rodrigo. Voilà, tu vois, t'es dans l'équipe, t'as gagné la Ligue des Champions l'année dernière, donc forcément, tu vas jouer aussi la Super Coupe d'Europe. Donc là, je pense que Ancelotti, ça a un peu permis ça, mais c'est pas bien. Moi, je pense plus pas avec l'André Modric, parce qu'il sera pas titulaire d'office, mais je pense que ce qui s'est passé quand ils ont sorti Rodrigo, c'est à peu près ça qui se passera. Je pense que l'équipe ressemblera un peu plus à ça, avec peut-être Camavinga titulaire. Parce que je remarque que, bon, il fait un bon match. Franchement, il a beaucoup pesé dans le jeu, défensivement et tout, Bellingham, mais ça manquait de cross. Franchement, il y a des moments qui étaient.
Et pour moi, c'est pas Bellingham qui fait pour moi un super match dans son rôle. C'est la question de Tchouaméni. C'est que moi encore son match aujourd'hui, je le trouve très très neutre. Il faudra vérifier. Je sais pas si on va poser la question à Ancelotti, mais tu l'as dit, l'absence de Kroos s'est vraiment fait ressentir sur la première heure de jeu. C'est qu'à chaque fois que Courtois avait le ballon, tout le monde s'écartait pour jouer long. Et souvent, ça a été des ballons redonnés aux Italiens. Et c'est vrai que ce fameux cheminement défenseur central, milieu de terrain, moi, je l'ai pas eu du tout pendant toute la rencontre.
Quand Modric rentre
point de basse, et c'est Tchouaméni qui se décale milieu relayeur. Donc, il y aura, je sais pas en fait ce qu'ils sont en train de préparer, mais moi, sur ça, c'est vrai que c'est un point important dans l'évolution du Real cette saison.
C'est à remarquer, t'avais aussi Bellingham et Vinicius qui redescendait beaucoup sur Bellingham, et il était des fois parfois obligé de parcourir une bonne partie du terrain pour essayer de trouver un décalage pour quelqu'un.
Et ça, normalement, ça doit être le travail de Tchouaméni, Mousse. Et
exactement. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais à mon avis, moi, j'ai espoir quand même que quand il reviendra, même si peut-être que dans l'esprit de Carlo Ancelotti, il ne sera pas titulaire, moi, je pense qu'il peut apporter du peps, même s'il n'a pas du tout le style de Kroos. Moi, je pense que Camavinga, il fera du bien.
Je sais pas s'il va l'utiliser en 6.
Là vous avez raison, c'est au milieu en fait qu'il y a un souci, et qui s'est pas trop vu ce soir par rapport à l'Atalanta. C'est que d'ailleurs, même Courtois, tu as dit, sur ces ballons longs, il allait même chercher, je crois que c'est Rodrigo, sur la ligne médiane pour faire des remises dans l'axe. Mais après, c'est vrai que ce milieu-là, si tu n'as pas soit les passeurs, soit effectivement Camavinga qui fait un peu du box-to-box, qui fait de la course, c'était Vinicius qui le faisait, qui revenait très bas et qui remontait le ballon très très vite. Et même sur des transitions, quand l'Atalanta a eu le ballon dans le camp du Real, c'était quelque part les attaquants ou les offensifs qui faisaient ce travail-là. C'est vrai que ça, sur la durée, par exemple, puisqu'on parlait, tu nous demandais sur la saison, on peut pas s'emballer tout de suite. Ça, c'est clairement un truc qui ne peut pas fonctionner sur une saison.
De toute façon, enfin, sincèrement, moi, je Rodrigo sera un moment un sacrifié dans cette équipe. Il va beaucoup jouer, mais c'est-à-dire que, franchement, il faut être sérieux. Tu es en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern, tu n'as pas cette compo ce soir.
Oui.
C'est quoi la compo alors pour vous ?
Je pense que Rodrigo, très souvent, va démarrer sur le banc.
Ok, mais le milieu, ça change rien au milieu avec la
Je pense que le milieu Walid, si je peux me permettre, ça me rappelle quand Ancelotti, bon, il y a eu quand même pas mal de victoires d'affilée en 2014-2015. Tu sais, quand il y avait Xabi qui était parti, il avait mis Kroos, Isco, James et Modric. Alors pendant un moment, ça marchait très très bien. Franchement, ça marchait très très bien. Arrivé la période décembre-janvier, c'est devenu une catastrophe. Il y avait plus rien. Le Real a commencé à couler. Et je pense qu'Ancelotti, il a ça en tête, il ne le refera pas. Donc moi, je pense que le milieu de base qu'il a dans sa tête, Ancelotti, vu que Modric, il n'est plus capable d'enchaîner autant de matchs, et surtout pas titulaire, je pense que ce sera Tchouaméni. Ça, Tchouaméni, il bougera pas. On a beau le trouver neutre. Malheureusement, il a beaucoup de choses pour lui. Tchouaméni, il a perdu 0 match avec le Real en tant que titulaire. C'est une réalité. Et donc,
je pense aussi qu'il ne le bougera pas, mais il doit.
Non, mais de toute façon, il y aura Valverde. à droite, Valverde à droite,
pardon, ouais. Les gars,
et Camavinga à gauche.
Ouais, c'est ça. Mais Camavinga, il y a deux mois d'absence à peu près avec cette blessure à l'entorse.
Oui, mais ça réglera pas le problème. Alors, moi, je veux bien. Oui, Tchouaméni. Moi, j'ai déjà dit que avec le Real, il est plutôt bon. Moi, c'est plus avec l'équipe de France qu'il me dérange. Mais il était plutôt bon avec Toni Kroos. Toni Kroos qui lui masquait beaucoup de choses, notamment avec le ballon. Là, on va avoir quand même beaucoup plus.
Ce soir, il y a une perte de balle très dangereuse. Hein,
moi, j'espère qu'on va avoir quand même beaucoup plus d'exigences et les manques de Tchouaméni avec le ballon. Tu sais, il y a beaucoup de passes latérales, il y a beaucoup de passes vers l'arrière. Il y a parfois il n'existe pas dans les relais. Alors que quand tu vois un Rodri, par exemple, avec l'Espagne ou avec City, tout passe par lui. Normalement, il a un positionnement sur le terrain où tout doit passer par lui. Là, ce soir, on a sauté les lignes. Et ça, moi, je pense que sur les prochaines sur les prochaines semaines, ça va être un truc à régler.
Le temps passe, je remercie Moustapha d'avoir été là. À bientôt Moustapha, okay, merci à beaucoup, vous, merci. À très vite. Et je voudrais surtout qu'on entende Johan sur cet Atalanta, on en parlait avant le match. Atalanta diminué, beaucoup de blessés, était compliqué pour le vainqueur de la Ligue Europa. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe, Johan? Il y a eu une bonne première période. Alors est-ce que c'est parce que l'Atalanta était agressif comme on la connaît? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce qui s'est passé en fait en deuxième période pour que ça coule autant?
Alors, il y a plein de choses à expliquer. Moi, j'ai bien aimé pendant 50-55 minutes. Même le retour des vestiaires, je trouve que l'Atalanta fait le job. Moi, ce que j'ai aimé, je n'étais pas trop d'accord avec ce que disait Flo dans ces trois points. Moi, ce n'est pas défensivement qui m'ont particulièrement impressionné, puisque d'ailleurs, les deux buts sont sur des erreurs individuelles, notamment erreur de relance de Mousseau sur le premier, et ensuite sur
l'erreur les fameux 50 minutes dont tu parlais, notamment.
Même pas, parce que ce n'est pas là qu'ils m'ont le plus. Moi, je les ai beaucoup aimés dans l'utilisation du ballon. Je trouve qu'il y a des longues séquences de jeu où ça va de droite à gauche en passant par le centre, devant, derrière, et ça confisque plutôt bien le cuir. Et je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de prises d'espace intelligentes, ce qui fait que le porteur de balle a toujours plusieurs solutions. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Et face à une équipe comme le Real, tu peux le faire contre les Las Véron ou pour prendre une équipe qui a été reléguée, Frosinone, la saison dernière, mais le faire contre le Real, c'est un petit peu différent. Donc là-dessus, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu pendant 50-55 minutes. Évidemment, offensivement, c'est plus compliqué, mais au-delà du fait que je crois que la première grosse occasion, sauf si j'en rate une en première mi-temps, mais il me semble que c'est la tête de Pasalic. Mais Pasalic, c'est vraiment un joueur qui est devenu moyen.
Si tu parles de l'Atalanta ou tu parles des deux équipes?
Non, des deux équipes, j'ai pas souvenir.
Là, il y a celle la barre de Rodrigo, fin de première mi-temps.
Exact.
Et la barre de aussi de l'Atalanta, mais c'est un peu.
C'est un coup de billard.
C'est construite, mais ça compte aussi.
Exactement.
Mais offensivement, c'est ce que j'expliquais aussi en avant-match. Kopp-Meiners, Kamaka, c'est impliqué sur 48 buts la saison dernière. Bon, les deux, ils sont pas là ce soir. Donc, t'as 48 buts en moins, potentiellement, tu vois. Donc, c'est aussi logique qu'offensivement, ils aient un petit peu plus de difficultés. Comme je le disais, Pasalic, pour moi, il est devenu maintenant trop moyen pour, en termes de niveau technique, notamment, il y a eu beaucoup de déchets. Trop moyen pour ce que demande maintenant l'Atalanta. Après, en deuxième période, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a le premier facteur, sans doute un peu, sans rentrer dans des longues analyses psychanalytiques, mais psychologique sur la première erreur et le but que tu encaisses. Tu sais très bien que quand tu encaisses un premier but contre le Real, ça devient tout de suite un petit peu plus difficile. En plus, quand tu fais des erreurs, parce que c'est une triple erreur. Il y a l'erreur de relance de Mousseau alors que le ballon était pas si compliqué à mettre. Il y a ensuite Yen qui glisse au premier poteau et Ruggeri qui suit la course de Valverde et qui ferme pas au deuxième poteau ou dans l'axe.
Ensuite, et la deuxième, c'est une erreur de relance de Yen aussi au départ.
Exactement. Donc les deux buts sont offerts, même si je pense que dire que globalement, il n'y a rien à dire sur le résultat du match et que si ça n'avait pas été là, ça aurait été un autre moment. Donc, facteur psychologique, facteur physique, on sait que les équipes italiennes, de manière générale, mais aussi les équipes de Gasperini, en début de saison, ont un peu de mal soit à commencer les matchs, à se mettre dans le rythme, soit à les finir quand il y a une grosse dépense énergétique, parce que là où ils ont été bons, là où je peux aller dans le sens de Flo, sur l'aspect défensif, c'est plus haut sur le terrain. C'est pas tant assez bas sur le terrain.
Ah non, mais c'est ça. Moi, c'était sur le pressing haut et sur le fait d'aller chercher le Real assez haut et, bah après, et dans cette occupation du terrain.
Défensivement, il y a ce Yen, même si il est responsable sur le deuxième but, qui fait
très gros match.
Il entre parfaitement dans le moule de ce que demande Gasperini sur le 1 contre 1, sur l'agressivité, sur le fait d'anticiper. Il est très intéressant.
C'est ce que je disais. C'est ce que je disais pendant le live. Comment tu vas juger le match de Mbappé et de Yen, tu vois? C'est-à-dire que Yen, pendant 60 minutes, il est monstrueux, il bloque tout le monde, il fait deux erreurs, et derrière Mbappé, qui n'est pas grandiose, il te met ce but, le deuxième, incroyable.
À juger, c'est pas très grave, finalement, son erreur. C'est l'attitude de Gasperini sur le banc. Oui. En gros, il va lui dire, ça, c'est interdit. Parce qu'en fait, c'est même pas une erreur de relance, c'est un choix, si tu veux, d'aller dribbler, d'aller prendre un risque à un moment donné quand tu es dans une position impossible. Donc, mais c'est ça, là où je vois que je suis pas très inquiet pour Yen sur
le métier de défenseur à ce niveau-là. Tu vois, c'est à juger.
Ça dit, contre le Real, c'est faire ça, c'est quand même une leçon.
Ah oui. Alors qu'il ne l'avait pas fait en première mi-temps, il y a eu beaucoup de dégagements, même lointains, qui t'a bazardé un peu pour gagner du temps, pour gagner de l'espace. Exactement.
Mais tout ça pour dire d'ailleurs, Yo, que finalement, c'est encourageant pour cet Atalanta, parce que oui, t'as ces erreurs individuelles, t'as cette deuxième période qui est moins bien. Mais bon, tu vois que sur la première période, tu vois que t'as aussi des individualités qui sont au niveau, il n'y a rien de catastrophique pour la saison qui arrive, malgré les absents en fait.
Il y a du matériel, il n'y avait aucun nouveau joueur sur le terrain au coup d'envoi parce que, alors à la fois, il y avait moins de choix possible avec les blessés et ensuite, je pense que aussi Gasperini voulait récompenser les joueurs qui avaient remporté l'Europa League l'année dernière. Quelque chose qui traverse toujours un petit peu l'esprit de Gasperini. Donc le système ne change pas, l'entraîneur ne change pas, les connaissances à la fois tactiques, collectives ne changent pas. Il y aura forcément des interrogations avec les triples blessures, Scalvini, Scamacca double blessure et départ probable de Cop Miners. Ça va quand même jouer aussi un peu dans les mécanismes collectifs. Même si, comme je le disais dans l'avant-match, si c'est O'Reilly du Celtic qui arrive, c'est une très bonne nouvelle. C'est un très bon joueur que j'aime beaucoup. Mais ça mettra forcément un petit peu de temps à rentrer dans la précision technico-tactique de Gasperini. Mais il n'y a pas à s'alarmer. Je veux dire, attendez, l'Atalanta pendant 55 minutes, ils font, on va appeler ça jeu égal, je sais pas si c'est la bonne expression, mais ils sont intéressants contre le Real. Ils perdent 2-0 contre le Real, match du 14 août. Ça va, on va pas paniquer non plus pour ce résultat-là. Il y a vraiment pas de quoi paniquer. Au contraire, moi je trouve que Gasperini peut se dire que, en vue de la Ligue des Champions, pendant 55 minutes, il a des très bonnes réponses face à un grand Europe ce soir.
Merci les gars, Johan Crochet, Fred Hermel d'avoir été là.
Petite information triste, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais non, le père de Lamine Yamal a été poignardé dans un parking, alors suite a priori un règlement de compte suite à une dispute qui aurait eu lieu dans l'après-midi avec des voisins. Donc ces jours ne paraissent pas en danger suivant la presse espagnole. Mais
on a été inquiet au début, mais effectivement.
Mais l'état est grave parce que c'est plusieurs coups de couteau. Hein, donc c'est le père d'un joueur qui enchante l'Espagne. Et on sait aussi l'influence qu'un tel événement pourrait avoir sur sur le rendement du gamin, quoi.
Absolument. Mais les dernières nouvelles venues d'Espagne, notamment de Relevo de Mundo Deportivement, disent qu'il serait quand même rentré chez lui. Hein, déjà, même s'il a été brièvement hospitalisé, donc a priori. Voilà, ça pas de drame absolu ce soir. Merci beaucoup Fredo, merci Johan.
Adios chicos.
Bonne soirée les gars. 23h32, c'est l'after en direct sur RMC jusqu'à minuit avec Walid Acharchour, avec Florent Gautreau dans deux jours. À notre tour, la Ligue 1, de reprendre dans un instant l'OM. On va écouter Eli Wahi qui a dit ses premiers mots de Marseillais aujourd'hui. On fera un point justement avec les dernières infos signées Fabrice Hawkins sur le Mercato. Êtes-vous emballé par le Mercato marseillais? 32-16, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
23h35, nous sommes mercredi le 14 août. On est ensemble en direct jusqu'à minuit avec Florent Gautreau, avec Walid Acharchour, direct sur YouTube. Vous êtes très nombreux ce soir sur la chaîne de l'after. Merci d'être là. N'hésitez pas à venir nous voir et surtout commenter dans quelques minutes un petit mercato show. On parlera également dans l'actu du jour de DAZN et quelques annonces du patron de DAZN dans une interview à l'équipe. Mais d'abord, messieurs, dames, plus que deux dodos. vendredi. C'est reparti pour une saison de Ligue 1. Et comme chaque année à Marseille, on reconnaîtra pas grand monde sur le terrain. La lessiveuse Longoria a encore frappé un nouveau coach et déjà 9 recrues. Greenwood, Wai, Cornelius, Koné, Delange, Hoiberg, Carbonnier, Brassier. Quelques départs également. Paolo Lopez, vous l'apprenez ce soir, part à Gérone, prêté avec option d'achat non obligatoire. L'OM qui a recruté des gardiens. L'OM qui espère encore un défenseur, un milieu de terrain, un ailier gauche. Des départs également, outre Paolo Lopez ce soir, Jordan Veretout, Chancel Bemba qui est mis à pied, Samuel Gigot, Ulysse Garcia. Ces joueurs sont poussés vers la sortie en ce qui concerne Bamo Meïté. L'OM ouvre la porte à un départ et si jamais il devait partir, la piste Kylian Sildilia de Fribourg prendrait alors forme. Voilà pour les infos du soir, signé Fabrice Hawkins. Êtes-vous emballé par le mercato marseillais? Je vous attends au 32-16, mais marseillais. Mais d'abord, écoutons Eli Wahi, présenté aujourd'hui à la presse. Évidemment, le nouvel attaquant marseillais s'est expliqué sur la vidéo qui est ressortie sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Cette vidéo dans laquelle il disait qu'il porterait jamais le maillot de l'Olympique de Marseille. Eli Wahi, aujourd'hui.
Ce que j'ai dit quand j'étais à Montpellier, c'est des années avant, j'étais jeune. Aujourd'hui, je pense que j'ai mûri et en tout cas, je suis très content d'être en face de vous. Je veux remercier les supporters, ma direction, qui ont fait tous les efforts possibles pour que je vienne ici. Et en tout cas, je donnerai tout le maximum pour rendre fier tout le monde.
Voilà pour Eli. Bon, sur ce sujet, je sais pas ce que vous en pensez, mais je propose qu'on lui fiche la paix avec ça. Il était jeune, c'est pas le premier à dire des choses qu'il aurait pas dû dire. Il y a plein de supporters parisiens, joueurs qui ont joué à l'OM. Il l'avait juste pas dit. Puis bon, on sait tous que au premier doublé, tout ça sera oublié. Est-ce que vous êtes emballé par ce mercato marseillais? On vous attend au 32-16, Flo.
Bah écoute, oui, pour une équipe qui fait pas la Coupe d'Europe, oui, c'est vrai que de voir des joueurs comme Hojbjerg, même comme Eli Wahi, parce que j'ai un petit doute sur Wahi, et là c'est intéressant de revenir sur cette phrase, j'ai plus de doutes sur l'attitude de Wahi que sur la qualité de Wahi. Moi, l'année où ils avaient explosé tous les deux, j'étais fan de Barcola et Wahi, tout le monde sait que je suis un grand fan de Barcola, mais je pense que Barcola a un avantage sur Wahi, c'est que dans son attitude, dans sa façon d'être au quotidien, il est supérieur à Wahi. Donc, est-ce que Wahi peut changer? Est-ce que dans ce contexte très compliqué de l'OM, ça peut fonctionner? Je ne sais pas. En tout cas, pour le reste, oui, même Greenwood, Hojbjerg, tous les noms que tu as pu citer, oui, je pense que c'est plutôt un très bon mercato et je suis plutôt assez confiant pour l'OM. Ils ont un très bon entraîneur. Là-dessus, ils ont aussi bien recruté. Donc, comme ça, de prime abord, c'est compliqué de faire des pronostics. Sans Coupe d'Europe, je suis plutôt hypé par ce qui se passe à Marseille. Après, dans l'équilibre de l'effectif, là, il manque encore des choses. Alors, on avait parlé des gardiens. Il faudra qu'on revoie aussi défensivement. On sait ils ont mis à pied Mbemba et que Gigot, on compte plus sur lui. Ça, c'est pas forcément un mal. Mais il y a encore des choses à voir dans l'équipe de l'effectif. Mais comme ça, de prime abord, moi, je suis plutôt séduit.
Oui, même chose. Déjà, on a eu la bombe de Zerbi en début de mercato. Le fait de pouvoir la tirer avec sans Coupe d'Europe, c'est très très important. On l'a dit à maintes reprises. Le début de mercato, moi, je l'aimais beaucoup. On me dit beaucoup de bien sur le petit Ismaël Koné, qui était à Watford, que De Zerbi connaît bien. Hoiberg, je trouvais que c'était un super coup parce qu'il va apporter beaucoup d'expérience et l'attitude que tu déplores sur Eli Wahi, je pense que lui, Hoiberg, a montré de par son expérience qu'il pouvait être ce leader dans le vestiaire. J'ai beaucoup aimé sa conférence de presse, notamment Greenwood. Malgré ce qu'on peut en penser en termes de joueurs de foot, niveau sportif, je pense qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe de Marseille. Après, voilà, c'est juste les deux gros cas, c'est le numéro 9 et le gardien. Le numéro 9 et le gardien, Rouli. Moi, ce qu'on m'en dit, notamment à l'Ajax, j'ai jamais été transcendé par ce gardien-là et j'aurais aimé quand même faire une vraie plus-value après Paulo Lopez au poste de gardien. On parlait de Brice Samba, on parlait de Jürgensen qui est parti à Chelsea, qui était à Villarreal, ou même le gardien de Las Palmas qui est finalement, je crois, parti au Real Betis. Il y avait des meilleurs échos sur ces gardiens-là. Et au poste de numéro 9, je l'ai déjà expliqué, mais je ne vais pas me répéter, j'aurais préféré la fiabilité de Nketiah à Eli Wahi. Même si Eli Wahi a des immenses qualités, et j'espère pour l'OM, et notamment que Cheikh Bennassia est est très très fort là-dedans. Il l'a fait avec certains joueurs l'année dernière, de vraiment le suivre et de vraiment le booster, de vraiment le garder en l'état en termes de concentration tout au long de la saison. De Zerbi aussi, Rossi qui est autour du staff aussi. Et si on a un Eli Wahi qu'on a vu à Montpellier, oui, en Ligue 1, parce qu'il n'y a pas l'Europa League ni la Ligue des Champions cette année, ça peut être très très bien. Donc oui, globalement, tu peux pas ne pas être hypé par ce qui se passe. Il y a le petit Carboni aussi de Monza qui est prêté par l'Inter. On nous en dit beaucoup de bien en Italie. Donc il y a des choses avec
Brassier.
Voilà, Brassier. Il y a des choses et tout ça peut être mijoté par un coach qui fait progresser ses joueurs, qui a montré des belles choses en Europe. Donc oui, on a envie de voir, on est curieux, on est pressé de voir l'Olympique de Marseille. Même si attention, il y a certains choix qui peuvent être risqués. Dans cet Olympique de Marseille et on va être fixé bientôt.
Marseille, on vise cette année un objectif clair, c'est retrouver la Ligue des Champions. C'est l'objectif.
Ah bah pour moi, oui, avec l'arrivée de De Zerbi, ouais. Avec ce mercato-là.
C'est l'objectif des dirigeants.
Après c'est intéressant, juste pour revenir sur Wahi, c'est un choix, effectivement, j'ai pas envie de dire par défaut, mais plus risqué que certains autres. C'est-à-dire que tu prends Hojbjerg, tu sais ce que t'as. Tu as quand même un mec d'expérience. Même Greenwood, tu sais quelle est la qualité du joueur. Il l'a déjà montré. Wahi, justement, là où on attendait une progression à Lens, dans un environnement qui était pas mal, avec un coach qui était bon, et où tu te disais que bah, s'il était très bon, comme moi je le pensais, il ne pouvait que progresser, statistiquement et en termes d'attitude et en termes de tout ce qu'on sait autour, c'est totalement insuffisant.
Oui, mais peut-être que justement.
Un match contre Arsenal, oui, okay, oui, très gros, mais insuffisant.
Mais peut-être que ça va lui servir cette saison lensoise. Justement, il aura déjà vécu la saison, oui. Où t'es attendu,
oui,
où tu dois.
Oui, mais c'est pas. Oui, mais attends, c'est le problème de Lens, c'est que de ce qu'on sait, de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas seulement un problème de genre crise de croissance. C'est aussi un problème, lui, d'attitude par rapport à tout. Le travail, les autres, tu vois, les entraînements, c'est juste ça. Donc, si effectivement, t'as toujours envie de croire un peu à tous les miracles parce que t'as le coach de Zerbi qui fera pas de cadeau, qui. Ok, j'espère ça. Hein. Comme on dit avec Mbappé et Ancelotti, ça va changer parce qu'il est obligé que. Tant mieux si c'est le cas, moi je le souhaite. Vous voyez, c'est un très bon joueur. Mais je veux dire par là, il y a tellement de possibilités à Marseille que ça pète pour lui, que ce soit compliqué à gérer, qu'il se prenne les supporters dans la gueule si ça va pas, tu vois, pour un geste, pour un truc.
Après, c'est un mec qui connaît très bien la Ligue 1, qui a mis 44 buts en Ligue 1, en 100 matchs.
Mais t'as raison sur Benassias. Il a besoin de gens autour de lui, je pense.
Moi, je pense qu'il va devoir être vraiment aidé. Moi, j'ai eu encore des échos que Will Steele, avec Will Steele à la prépa, il l'a challengé, il y a eu des mots à l'entraînement, notamment. Donc, Will Steele, Frank Hayes, Thierry Henry, j'en avais déjà parlé, la sortie aussi de la liste des JO, parce qu'avec les espoirs, ça n'a pas été grandiose non plus en termes d'attitude, donc il va falloir le coller. Ce qui se passe à Marseille aussi, autour, hein.
Bien sûr.
On parle beaucoup de Paris, mais à Marseille, non, les sorties, les entourages.
Juste Paris.
Bien évidemment. Donc, non. Mais maintenant, si le mec est à l'endroit et ça peut s'embraser au Vélodrome, sous De Zerbi, moi, j'estime qu'en Ligue 1, avec De Zerbi, avec une équipe qui va être protagoniste, Eli Wahi va avoir beaucoup de situations. Donc, à lui de les mettre. Mais par contre, si il est dans une spirale négative, est-ce qu'il va être comme à Lens, ronchon, il va traîner sa peine, etc., vouloir parler avec personne, ou est-ce qu'il va avoir l'esprit combatif? C'est aussi ça qui va être important. Mais pour Rulli, parce qu'on n'a pas assez parlé du gardien, la même chose. Paul Lopez, moi, je lui trouvais des qualités et des défauts, et je pensais qu'il, je pense que tu pouvais aller aller chercher mieux.
Mais est-ce que
Rulli, c'est mieux que Paul Lopez? Je sais pas si tu
dingue.
Franchis une grosse marche. En fait.
Hamza est là au 32-16. Supporter de l'OM. Salut Hamza, bienvenue dans l'after.
Salut Thibaut, salut Flo, salut Walid.
Salut.
Bon alors Hamza, ça va, emballé par le mercato de l'OM?
Salut Hamza.
Ouais, franchement, je suis bien emballé et j'attends de voir samedi, quoi.
Quand t'entends Walid, Flo émettre des doutes, notamment sur le gardien, sur Wahi, est-ce que tu les partages aussi ou t'es plus optimiste?
Un peu sur Rulli, ouais, parce que son passage à l'Ajax, il n'a pas été aussi flamboyant. Après, bon, il a fait les JO.
Oui, et puis surtout, tu changes un gardien qui n'était pas transcendant non plus, donc voilà.
C'est vrai, mais bon, franchement, après, bon, c'est comme vous connaissez, c'est Marseille. Hein.
Après,
Marseille.
Peut-être que le coach voulait un autre
type de profil, quoi.
Ouais, mais Rulli, tu prends un mec à 32 ans, même par rapport à la logique du mercato marseillais où c'est quand même très jeune, tu crées de la valeur marchande et je trouvais ça hyper intéressant. Bon, après, il y en a qui te diront qu'il faut aussi de l'expérience, mais tu vois, ouais. Je suis un peu.
Il a une petite expérience en Ligue 1 aussi.
Rouli, il y a pas mal de matchs où il était sur. Il a passé globalement la saison sur le banc l'année dernière à l'Ajax, quoi. Tu vois, c'est. Après, c'est peut-être un choix du coach. Mais j'aurais aimé. Tu vois, par exemple, je le disais tout l'été, quand on faisait les afters avec Daniel et Kevin, s'il y avait un mec à prendre à Lens, c'était le gardien pour moi. Tu prends Brice Samba avec l'histoire, le retour à Marseille, alors qu'il était numéro 2, numéro 3 derrière Mandanda, tu vois. Là, Rouli,
On est sûr que ça peut pas être Delange?
Hein?
On est sûr que ça peut pas être Delange?
Non. L'idée, c'est que, je sais pas, mais. Et puis surtout, en plus, moi, avec De Zerbi, le gardien, c'est souvent son point faible. Parce qu'il lui demande beaucoup, notamment dans les relances, etc. C'est très très bien, mais souvent c'est pas extraordinaire. Les gardiens sont pas extraordinaires sur la ligne, etc. Tu sens que autant je suis hypé sur beaucoup, mais là ça j'attends de voir quoi.
Ouais. Bon Hamza, merci d'avoir été là en tout cas.
Ouais, après c'est surtout, je vous ai entendu sur Eli Wai.
Ouais.
Moi j'attends beaucoup de ce jeune. Il faut vraiment que qu'il se transcende. Et je pense qu'il a une revanche à prendre par rapport à Lens, tout ce qu'il a vécu, les sifflets et ainsi de suite. Quoi.
Tu trouves aussi que c'est un pari ou toi t'es vraiment optimiste en tout cas?
C'est un pari un peu risqué, mais je pense que ça c'est quitte ou double quoi. C'est quitte ou double. Soit ça passe, il vient, il arrache tout. Et s'il a des moments de doute, ça peut nous retomber dessus quoi.
Moi j'ai espoir bon. Moi je l'ai dit, hein, j'aurais préféré Nketiah, mais j'ai espoir en De Zerbi, en Benassia, en toute l'équipe d'aller le challenger constamment, de lui donner, sûr, soit de lui donner année, beaucoup c'est... d'amour, soit de lui donner beaucoup
de claques. Mais je pense surtout que c'est lui. Je pense que à un moment donné, c'est toi qui dois. Il a pas eu la bonne attitude à plusieurs reprises. Je pense que si son entourage aussi et lui se disent pas, c'est à toi d'abord de faire les efforts. Ça va chauffer, ça va des fois tanguer, ça va être compliqué. Tu vas te faire insulter, tu vas prendre des trucs. Et va falloir regarder la tête froide et avoir le sourire et dire bonjour coach. Et pas de problème et j'y vais, je joue pas, c'est comme ça. Si on lui dit aussi autour de lui, c'est pas normal que tu sois utilisé machin, faut arrêter,
c'est la faute de l'autre. Et il l'a dit en conférence de presse, il sait qu'il a attendu, de toute façon il va être très très attendu, transfert quand même à 25 plus 5 avec un million d'euros de bonus très atteignable, donc il y a un gros investissement consenti de la part de l'Olympique de Marseille. Donc, va falloir avoir une exigence là-dessus. Hein.
Merci Hamza d'avoir été là. À très vite sur RMC. Brest-Marseille, le premier match de l'OM, ce sera samedi à 17h pour cette première journée de Ligue 1. Il est 23h49, dernière pause, et on se retrouve avec le meilleur de l'actu du jour. Les dernières infos Mercato, et puis je vous dirai les principales phrases de l'interview du patron de DAZN à deux jours de la reprise de la Ligue 1. Tout de suite sur RMC, c'est l'after avec Walid Acherchour et Flo Gautreau.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Walid Acherchour, avec Flo Gautreau, merci d'être là en direct sur RMC, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after dans quelques instants, le meilleur de l'actu du jour. Vous dire ce soir que l'accord est total désormais entre le Paris Saint-Germain et Rennes pour Désiré Doué, fin du feuilleton, il va bien jouer à Paris. Accord total, on n'a pas le montant du transfert, mais c'est bouclé. Le milieu offensif attendu à Paris prochainement pour la visite médicale, contrat de 5 ans. On vous avait annoncé lundi que Doué avait fait le choix du PSG déjà en début de semaine.
Il ne doit pas être loin des 70. Hein.
Ouais, les derniers chiffres dont on parlait le week-end dernier, c'était 60. Paris, tu penses qu'il y a
un peu plus haut, je pense. Non, en tout cas, si ce n'est pas 70, c'est pas loin.
C'est pas loin.
Peut-être avec des bonus ou autre, mais...
Doué qui avait des prétendants...
Bayern, et pour info, il y en avait un autre en Angleterre, en dehors de Chelsea, c'était Tottenham.
Tottenham.
Ah ouais.
Donc Tottenham était dessus, et voilà, Doué, je pense qu'il fait un choix, c'est très bien pour lui que ça s'arrange avec le PSG, entre Rennes et le PSG, parce que c'était son choix. Un choix intéressant pour lui, notamment par rapport au coach, avec Luis Enrique. Je pense que l'exemple Barcola, pour lui, a dû être décisif. Non pas dans l'idée d'être un titulaire, et loin de là, mais d'avoir sa chance dans la rotation et surtout dans la progression qu'il peut avoir dans son jeu. Parce que il a commencé une progression intéressante sur la dernière saison, notamment sur le fait de jouer moins tout seul, de vraiment penser aux autres, de lâcher le ballon plus vite. Et je pense que, comme on le disait tout à l'heure pour Mbappé au Real, c'est pour lui, c'est une bonne possibilité.
Luis Enrique le voulait absolument. Ils ont beaucoup échangé. Il veut l'utiliser à plusieurs postes.
Il veut l'utiliser à plusieurs postes. Et c'est un joueur qui a plusieurs postes.
Et dans plusieurs systèmes, à gauche pour concurrencer Barcola, au poste de numéro 8, où moi je pense que sous Luis Enrique, il peut vraiment se régaler au poste de numéro 8 quand il a le jeu face à lui. Et au poste de numéro 10 aussi. S'il y a un changement de système en 4-2-3-1.
Je pense que c'est le joueur type Luis Enrique, parce que jeune, bien sûr, on connaît son appréhension à travailler, mais là où tu as raison, et c'est quand même un cas, même en France, assez intéressant, la polyvalence de ce joueur. Alors peut-être que pour lui, ce sera meilleur à un moment donné, mieux à un moment donné de se fixer sur un poste, c'est toujours la question.
Oui.
Mais Désiré Doué, tu peux l'utiliser, et il a été utilisé effectivement, et lié à tous les postes quasiment offensifs, meneur de jeu.
Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est le problème parfois, c'est peut-être. Que t'es bon partout, mais du coup t'es pas indispensable
pour l'instant,
à un endroit.
Pour l'instant, tu vois, regarde, t'arrives au PSG, tu crois que c'est un inconvénient ou un avantage?
Non,
c'est un avantage,
c'est vrai, bien sûr.
Parce que là, il va être utilisé parfois à la place d'un autre joueur, il va faire son trou peut-être, si Barcola garde sa place, il sera peut-être utilisé ailleurs, il va pas être titulaire forcément. C'est un joueur qui a des qualités énormes, qui a un nombre de matchs déjà en Ligue 1 impressionnant pour son âge, mec bien, il a un bon entourage. Allez,
vas-y. Je le préfère dans le cœur du jeu. J'avais eu la chance de le voir très jeune en Gambardella quand Rennes avait joué contre Bobigny. Dans l'équipe, il y avait Matistel, Bélossian et Désiré Doué. Et c'était le joueur qui m'avait le plus tapé à l'œil. Et il jouait au poste de numéro 8 avec un jeu très épuré, comme l'a dit.
Il en remet une danse.
Oui, 4-0, très assez facile en deuxième mi-temps avec un but incroyable de Matistel. Et quand il était revenu l'année d'après dans le groupe pro de Rennes, Genesio le faisait jouer sur le côté. Et j'avais vu un joueur totalement différent en termes d'explosivité. Et je trouve que le bon mix, ce serait de le trouver au milieu de terrain avec Luis Enrique, surtout qu'il y a un petit manque de créativité au milieu du PSG. Et ça peut être un bon compromis.
Un grand espoir arrive à Paris, un grand espoir de la formation parisienne quitte le PSG. Johan Gadou s'en va, 17 ans. C'est l'un des grands noms de la formation. Paris voulait lui faire signer un contrat pro, mais le jeune défenseur central va finalement.
Ouais, les deux gros avec Ibrahim Baye, les deux gros prospects parisiens de sa génération.
Un point droit télé. Vous dire qu'aujourd'hui, à deux jours du début de la Ligue 1, donc sur DAZN et beIN Sport, accord de distribution entre Amazon et DAZN, ce qui ne change rien au prix. C'est-à-dire que si vous avez Amazon, vous pourrez désormais voir les matchs de DAZN, mais le prix sera le même. L'offre à 30€, enfin 29,99 ou 39,99 s'il n'y a pas d'engagement. DAZN qui va proposer un match gratuit lors de cette première journée, ce sera Toulouse-Nantes ce week-end, donc à voir si ce sera fait plus régulièrement. J'ai envie de dire quand même, on fait une bonne nouvelle dans cet épisode. Et puis interview ce soir du PDG de DAZN Monde, il s'appelle Shay Segev, dans l'équipe. Longue interview, je vous en lis quelques extraits. Il dit notamment 29,99 par mois est un juste prix. Il dit ce prix a été établi sur la base de notre expérience sur les marchés voisins et nous estimons qu'il correspond à la valeur de l'offre que nous proposons. Il lui a demandé s'il n'est pas inquiet de voir le peu de Français qui déclare vouloir s'abonner. Il dit, je cite, cela m'inquiète et j'aimerais pouvoir proposer un prix inférieur si je le pouvais. Mais si vous le comparez, un billet de match, combien coûte-t-il aujourd'hui? Il ajoute un peu plus tard, je cite, nous avons besoin de 1,5 million d'abonnés, ne serait-ce que pour couvrir nos dépenses. Le consommateur doit comprendre qu'il ne paye pas DAZN, il paye la Ligue et les clubs. Parce qu'en fin de compte, si cela ne fonctionne pas, qu'est-ce que cela signifiera pour le football français? Voilà ce qu'il dit. Il dit également un peu plus tard qu'il souhaite atteindre 2 à 3 millions d'utilisateurs avec un ensemble de formules. C'est-à-dire que à l'avenir, il va réfléchir peut-être à un abonnement dédié au smartphone, par exemple, des idées qui verront après, le jour un peu plus tard, peut-être.
Sur le prix, c'est quand même la vision économique du boss de DAZN. Moi, elle me choque pas forcément. Lui, il est dans
la rentabilité.
Oui, dans une forme de rentabilité. 1,5 million abonnés. Je peux te dire que là, le chiffre que tu as cité, il est inatteignable dans un premier temps. Donc la rentabilité, elle est compliqué. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas un abonnement à 60€ si tu veux aller par là, parce que si tu veux rentabiliser ton produit, c'est très compliqué. On le voit aussi, y compris dans l'offre, puisque le multiplex sera supprimé, n'existera plus. Exactement. Parce que forcément, tu fais des choix, tu fais des économies. Moi, la vraie difficulté, je suis désolé, pour les gens qui veulent s'abonner, pour la globalité de la Ligue 1, parce que c'est pour avoir la globalité des matchs, c'est plus que 30€. si tu veux voir la globalité, puisqu'il y a Bill en plus.
Il y a le dernier match sur Bill. Donc Dazone a le dernier match du samedi en différé à minuit.
Quand t'arrives à 55 euros par exemple pour aller voir la Ligue 1, de toute façon c'est beaucoup. Que lui il trouve que ce soit pas beaucoup son abonnement à 30 euros, peut-être, mais c'est beaucoup pour
il explique dans l'interview qu'il veut avoir un accord avec beIN Sport.
Exactement. Il espère avoir l'opportunité de créer un package d'Azone beIN pour avoir l'intégralité, la totalité des offres dans un package à prix attractif. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui veut dire que c'est pour ça que je t'ai dit que la communication, c'est une chose. Qu'il veuille faire des économies, peut-être. Mais aujourd'hui, tu as une offre avec le multiplex en moins qui est moins important, moins intéressante que ce que tu avais avant et pour un prix qui est plus important. Donc, c'est évident, c'est logique, t'as vu, tu entends, il y a des menaces de boycott, il y a tout ça. C'est logique que les gens qui sont des ils parlent d'abonnement au stade, t'as des gens qui font ce calcul là aussi, qui ont déjà leur abonnement pour aller voir leur match à domicile et qui veulent évidemment voir le reste de la compétition.
Il y a même des clubs qui font des offres moins chères aujourd'hui pour essayer de se calquer là-dessus. Mais après, ça soulève d'autres problèmes. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ces chaînes-là ne soient pas en déficit au bout de 6 mois, au bout d'un an. Il explique aussi dans l'interview qu'il est dans un juste milieu entre le consommateur et aussi les clubs. Parce qu'en gros, il faut payer aussi les clubs. Donc, quelle est la solution si en fait les mecs ils s'écroulent au bout de 6 mois, 1 an à perte ou 2 ans, Et dans un autre côté, si les mecs ils mettent hors de prix et qu'il y a pas d'abonnement parce que les mecs ne répondent pas.
Mais on en est là.
Parce que beIN Sport, par exemple, avait fait des prix très attractifs à quoi 12-13 euros, mais ils étaient à perte pendant combien de temps. Quelle est la vraie solution
en tout cas, la solution ne peut pas être de dire aux gens qui sont chez eux, qui ont des difficultés pour se payer un abonnement pour aller au club, c'est à vous de payer la difficulté que Brune a eu à trouver un diffuseur.
C'est ça qui me dérange dans cette interview, en fait.
Bien sûr. En fait, il t'explique que lui, il demande.
Que c'est toi,
prix.
Le consommateur, qui est responsable.
Tu as réglé parce que la Ligue 1, il faut bien payer les présidents, ils veulent leur argent, donc on vous fait un abonnement assez cher. Tu dis, oui, on l'a vu.
Tu te rends compte que les clubs, le diffuseur et les consommateurs, en fait, tout le monde a une problématique à régler très très rapidement et que là il y a très peu de solutions en fait. C'est ça que.
Mais après quand tu vois que quand tu mets tout ça, l'offre qui est moins bonne, le prix qui est cher et que tu rajoutes sur la Ligue 2, là c'est pas DAZN, c'est beIN, cette histoire des matchs du vendredi soir, c'est hyper intéressant quand même de voir que
la grogne des supporters.
Pas que des supporters, hein, des clubs aussi, les clubs sont pas contents. C'est quand même une petite révolution. Il faut savoir que les matchs de Ligue 2 donc sont prévus le vendredi soir.
Ouais, le multiplex,
ils étaient le samedi
vendredi
à 19h30, que c'est vraiment pas du tout la même chose. Alors, je te parle même pas des déplacements, d'aller en famille un samedi à 19h ou de ne pas aller parce que c'est compliqué quand tu travailles au stade. Donc là, on est quand même sur un dossier très très complexe.
Sur la Ligue 2 est lié à l'argent de la Ligue, ou le non-argent, il n'y aura pas de VAR cette saison. Ça devait être prévu.
Absolument. Ouais.
Je précise quand même, VAR, le coût du VAR à l'année, c'est environ 3,5 millions d'euros. Le salaire du président de la Ligue de football professionnel, 1,2 million par an.
Non, mais ce qui est.
Des économies à faire.
Non, mais tu as raison. Là, on est en train de voir toutes les économies qu'on peut faire. Effectivement, la Ligue 2 sans VAR. Moi, je suis pas pour la VAR, donc ça me manquera pas. Mais de fait, c'est quand même un signe de dégradation des conditions, effectivement, d'exercice du foot en France.
Bon, en tout cas, la Ligue 1 revient dans 2 jours. Après, voilà, on leur souhaite du succès. Hein. Moi, je ne souhaite pas que ça s'écroule et on charrie de temps en temps, mais voilà, on sera là.
Le problème, il est beaucoup plus profond.
Regardez.
On en parle depuis un bon moment.
Exactement. Merci à tous d'avoir été là. Merci Walid, merci Flo, merci à vous. Ça a été un plaisir à nouveau. Bonne soirée. Merci à Jérôme Thomas, à Max au Standard, et à Polo et à Tim à la Real. Ciao tout le monde.
RMC, l'After Foot.